Vous écoutez
RMC.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Daniel, quels sont tes trois points ce soir ?
Le premier, c'est la supériorité nette, évidente du LOSC, qui s'enchaîne avec mon deuxième point, qui est le jeu de Lille, que j'aime beaucoup. Je le dis souvent, je pense que c'est l'équipe de Ligue 1 qui a le jeu le plus moderne. Quand je dis moderne, c'est la plus en phase avec ce qui se fait en Europe au plus haut niveau. Je dis pas que c'est aussi fort que le plus haut niveau européen, je dis que ça veut être comme ça, que ça ressemble sur le terrain à ça. Et mon troisième point... Eh bien, c'est une question. C'est quand PSG-Lille ou Lille-PSG? Parce que j'ai très envie de voir ce match. Parce que je pense que Lille est une équipe qui est capable d'emmerder le PSG. On verra si je dis une connerie ou pas le jour où ça arrivera. Et ça arrivera précisément Lille-PSG lors de la 16e journée. Et ce sera juste avant Noël, le 20 décembre.
Ça fait 3 points, ça? Oui, ça fait 3 points. Oui,
ça super, fait 3 ça. Points, ouais.
Très bien, très bien.
À moins que tu aies du mal à compter.
Non, mais Daniel, tu es dans les temps.
Rapide, bref, concis, efficace.
Fred.
Ouais, mon premier point, je rejoins Daniel. Hein, démonstration lilloise, technique, tactique, physique. Ils ont réussi à mieux gérer, en fait, la gestion des émotions et puis l'expérience. Hein, on a senti une grosse sérénité. Donc, entre les deux équipes, franchement, il y avait un gouffre. Pour mon deuxième point, c'est le retour de Fred Antonetti. Je voulais lui faire un petit coucou. Hein, et puis Metz qui ne perd pas, ça aussi c'était important. Et mon troisième point, c'est que tous les clubs français qui sont en Coupe d'Europe n'ont pas perdu pendant cette journée de championnat. Donc ça aussi c'était à souligner. À part Rennes, je crois qu'il a fait un match nul, mais sinon le reste.
Mais qui va perdre du gagner. Coup
contre gagner.
Exactement.
C'est ça. Moi, fait peur. Je crois que tu m'as regardé en me disant.
Non, t'as juste.
Ah d'accord.
Moi j'ai mis quoi? Donc, j'ai mis.
Mais
moi je suis assez d'accord. Je suis d'accord sur le ce que disait Daniel tout à l'heure. Est-ce que Lille, je vous pose cette première question, est-ce que Lille ne se positionne pas clairement comme le concurrent du PSG cette saison? Alors est-ce que c'est trop tôt encore pour.
Quand on voit Lyon, quand on voit Rennes, il n'y a même pas de question. Non mais il y a même pas de question possible. C'est je sais pas si Lille pourra rivaliser avec le PSG pour le titre. Je sais pas s'ils peuvent rester dans les clous en nombre de points. Mais pour ce qui est de la deuxième place, le favori numéro un, c'est Lille. Mais incontestablement, ils sont au-dessus de Lille, de Marseille en termes d'effectifs, en termes de jeu, de ce qui se passe sur le terrain. Enfin, moi je sais pas.
En termes d'effectifs, c'est mieux. Lille c'est mieux que Rennes. Je suis pas sûr, Daniel.
Que Rennes.
Oui.
Ah oui, mais c'est mieux que Marseille, c'est mieux que Lyon, mais bien
ça,
sûr.
Ça, par contre, mettre Marseille mieux que Lyon aussi. À part que tu me dis que au niveau du management,
c'est plus homogène. C'est meilleur derrière. Ils ont un meilleur gardien, mais non
un
meilleur.
C'est surtout la dynamique.
Ils ont une meilleure charnière. Derrière la charnière, le milieu à deux, que ce soit avec Renato Sanchez, c'est bien. Sur les côtés, enfin franchement, moi je trouve que. Alors après, Gilbert a raison d'ajouter que. Sans tomber dans un jeu de comparaison d'individualité qui, au fond, n'a pas vraiment un sens premier. J'ai le reste au niveau du jeu collectif, mais très franchement, et encore, moi je trouve que devant, parfois ils gâchent un peu les opportunités.
Ils gâchent beaucoup.
Tu les regardes.
Mais Depay joue pas à Lille. Depay, Aouar, tout ça, ça joue pas à Lille.
Tu appelles Depay, toi.
Depay.
Tu peux l'appeler
le P. Ouais,
écoute, je te dis pas. Non, mais franchement, le jeu de l'individualité, j'en sais rien. S'ils sont dans l'équipe et dirigés dans le sens collectif que met en place Galtier, je te dis, il y a aucun problème. Bien sûr qu'ils peuvent avoir leur place. C'est pas ça que je te dis. Mais moi, je vois pas dans une autre équipe en France une telle volonté d'aller de l'avant vite, de jouer rapidement les transitions, d'essayer de toujours trouver le geste juste. Même si, je le répète, hein, moi. Je trouve qu'offensivement, Lille, parfois, quand je les vois, je me dis, oh putain, si jamais il réussissait cette passe, si jamais il faisait ça, si jamais l'autre, il avait un peu moins porté le ballon, mais le nombre d'occasions qu'ils sont capables de se créer avec cette vitesse de jeu, elle est immense.
Et surtout David dans le collectif qui n'est pas encore au point.
Exactement. Mais toi, Fred, tu penses la même chose quand tu les vois jouer. Enfin, Ah non, non, mais par rapport quand à Marseille et Lyon, il n'y a pas photo au niveau de la rapidité d'exécution. Ça va vite, il connaît qui rentre, ce qu'il fait tout de suite, les possibilités même sur le banc. Je trouve que c'est frais, c'est déterminé, c'est généreux. Moi franchement, ça me plaît depuis pas mal de temps, mais là, je trouve que
C'est une patte Galtier qui l'a mis en place depuis un certain moment, depuis qu'il est arrivé à Lille finalement, puisqu'il a changé aussi. On s'apercevait pas de cette patte Galtier quand il était à Saint-Étienne, on voyait pas ce genre de choses.
Parce que c'est nouveau. On lui a demandé de mettre un jeu en place. Depuis que maintenant il est à Lille, depuis que Campos recrute et tout, à chaque fois qu'ils prennent des joueurs, ils prennent des joueurs pour entrer dans ce moule de jeu là.
Et donc, pour renforcer l'équipe,
c'est axé exactement le recrutement, les joueurs qui sont là, c'est axé en prenant des mecs qui sont capables de jouer comme ça, qui sont capables de jouer vite de cette façon-là, d'immédiatement aller de l'avant, et tout le jeu, il est exactement orienté de cette façon. C'est le jeu qu'on voit dans beaucoup d'équipes européennes, transition ultra rapide, pressing, bim bim, on va mouvement, énormément de mouvement. Moi franchement, je suis vraiment séduit par
Christophe Galtier, parce que fait partie des meilleurs entraîneurs français aujourd'hui. Moi je pense que il a fait des super
aujourd'hui,
fait un super boulot franchement à Saint-Étienne. Après il a changé complètement de philosophie.
On pourra en parler de Galtier, à Saint-Étienne, il a aussi les années où
il est resté longtemps quand même. Il a fait des Coupes d'Europe avec Saint-Étienne, donc pour moi c'est simplement
c'était pas du tout la même chose, c'était pas la même réflexion sur le jeu, c'était pas du tout, il pensait pas pareil,
mais ça évolue, ça évolue un coach aussi.
Ça évolue, les joueurs ça évolue, les joueurs qu'il prenait et sa volonté tout le temps de jouer bloc bas pour pas emmerder Ruffier qui chouinait parce qu'il fallait tout le temps jouer de cette façon là et qui quelque part il l'imposait aussi de par son style.
Il a regardé les équipes qui gagnent, comment elle joue, les équipes qui gagnent, tout simplement.
Exactement.
En transition rapide, avec un gros pressing. Mettre beaucoup d'intensité. Et en France, quand tu le fais, c'est à part le PSG parce qu'ils ont
d'abord,
grosse position.
D'abord, tout le monde ne répond pas. Mais il faut également préciser quelque chose. Il y a un club qui travaille avec cette idée-là. Ça veut dire que quand ils prennent des mecs, ils les prennent comme des mecs qui sont au préalable capables de s'adapter à cette façon de jouer.
Regarde Yilmaz, posait la question en début de saison. Pourquoi ils vont chercher un mec de 35 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que
c'est la surprise.
Là, c'est la surprise. Le mec, il a 35 ans, il court partout, il défend, il met de l'intensité, il marque des buts. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Absolument rien.
Je sais pas, j'adore. Des fois, il rentre dans l'arrière. J'adore ça, ouais.
Alors messieurs, il adore ça, les supporters lillois sont aux anges.
Non mais il est habile et tout, j'aime bien cette façon et tout. Non, j'aime bien,
pour
moi je pensais clairement qu'ils allaient battre Lens, parce que c'est même très normal qu'ils battent Lens, parce que Lens fait un très très bon début de saison, mais c'est quand même en dessous, et il n'y a pas de honte à ce que ce soit en dessous, c'est une équipe qui monte. C'est déjà formidable qu'ils soient là où ils sont, mais là ce soir
ils sont tombés
sur un gros, il n'y a pas photo, c'est terminé.
Steve est là, Steve, supporter de Lille, salut.
Salut les gars.
Bonsoir Steve.
Ça va
et toi?
Ah, c'est la folie, je suis content. Hein. c'est énorme, 4-0. Et Fred?
Oui, dis-moi.
Fred?
Ouais.
C'est le prochain qui va marquer, c'est un Lensois. C'est un Lensois.
Tu m'as entendu à la mi-temps?
Oui,
ouais, j'ai entendu. Mais je voulais un peu de suspense, tout simplement.
Ouais, il n'y en avait pas. Moi, j'avais dit.
T'avais dit un gros score
mineur, moins de 18 ans, voilà, 4-0. Et dans les deux sens, ça au mineur et au mineur aussi, un hein, mineur de fond, hein, c'est la même chose. Mais voilà, nous on est contents, 4-0, on attend ça depuis, on attend le derby, on attendait qu'il remontait depuis longtemps. Et voilà, on montre qu'encore une fois, il n'y a qu'un club dans le Nord, c'est Lille, et puis Boston. Mais pour parler du match, moi je trouve qu'il n'y a pas eu photo. Après, il y a une différence d'effectifs, ça on va le reconnaître quand même. Hein. Les Lensois se sont quand même bien battus, je tiens à le dire quand même. Défensivement, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et après, t'as les deux cartons rouges, donc derrière ça déroule, quoi. Tu changes même l'équipe et ça change pas du tout le fond de jeu, quoi. Aujourd'hui, on a un banc et franchement, c'est de kiff. Moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux.
Steve, Lille.
Je vais te dire, moi, je suis pressé de voir cette équipe en Europa League. Je suis pressé. Alors, je suis même pressé qu'elle aille au-delà des poules, parce que je veux croire qu'ils vont sortir facilement de la poule. J'ai envie de les voir dans les matchs aller-retour l'hiver prochain, là, en 16e, puis en 8e en Ligue Europa. J'ai envie de voir ceux qui sont capables de faire.
Avec l'Europa League, faut toujours être méfiant.
Ouais,
Ouais, mais cette année, j'ai pas envie d'être méfiant. Franchement, ça me rendrait.
Pour le championnat,
alors, franchement, si en Europa League, là, dans la phase de poule où ils jouent avec quoi? Ils jouent avec le Sparta. Non, franchement, écoute, s'ils sortent pas de la poule, alors là, franchement, là, c'est le désespoir pour moi, mais je peux pas le croire. Ils sortent de la poule et. Non, je peux pas le croire.
Lille avec. Attention, ils ont quand même une poule Sparta-Prague, Milan, qui est leader de la Serie A, et le Celtic Glasgow, hein.
Bon, ouais, c'est pas si facile que ça.
Hein. Pour moi, ça sort avec Milan. Mais attends, mais oh, si ça sort pas sur Sparta et sur Celtic,
je sais pas, moi, avec le français, ils sont éliminés par les Hongrois maintenant. Non, Daniel,
oui, mais
arrête.
Pas Lille. Lille.
Tu sais très bien, les jeudis noirs, tu connais.
Non, pas Lille.
Bon.
Non, mais Lille c'est, j'ai l'impression que là, ils sont en train de prendre un. Non, je crois qu'ils sont en train de prendre un pli un peu différent, là. J'ai l'impression qu'ils ont abandonné l'étiquette Ligue 1. Je sais pas pourquoi je le sens, mais.
Ouais, une autre dimension européenne.
Steve, est-ce que Lille se positionne ce soir comme le principal concurrent du PSG pour le titre?
Oh, concurrent, non. Paris, pour moi, il reste au-dessus. Hein. Lille, c'est deuxième. Et comme disait Fred, attention à Rennes, parce que Rennes, ça joue très bien. Mais non, moi, pour moi, Paris sera encore au-dessus. Et Lille va essayer de jouer dans le top 3. De toute façon,
mais t'as quand même pas envie de voir le 20 décembre ce que ça va donner, le Lille-PSG? Juste pour voir, t'as pas envie de te dire, tiens, j'ai envie de voir ce que ça fait.
Si, ce sera excitant, on va dire, hein, mais
quand même.
Ça sera excitant en plus si l'écart entre les deux équipes est pas énorme.
Ouais, mais bon, quand t'as des grands joueurs comme Neymar ou autre, ça fait la différence sur une action. Et puis ouais, moi j'estime pas que Lille encore au niveau de Paris. On est déjà 10 fois au-dessus de Lens, déjà ça me fait plaisir. Moi le match de l'année,
c'est là, s'en fout,
je dis tout le temps Real Barça, les autres.
Ah, me dis pas que Lens était c'est toi, je veux, OK, ça pouvait pas t'inquiéter.
Ah, mais Steve,
déjà
il faut
les féliciter. Déjà ils montent de Ligue 2, c'est bien ce qu'ils font et tout, mais enfin vous jouez pas dans la même cour, quoi, voilà.
Moi, j'ai un collègue, justement, Thierry Van Laine, qui lui disait que Lille allait gagner. Et moi, je vous l'avoue, les gars, j'avais un doute sur le fait que Lens aurait plus faim que nous, parce que je me souviens que nous, quand on est remonté de Ligue 2, on jouait quand même le grand Lens, qui est en Ligue des Champions, qui avait fini champion de France, ouais. Et on les avait tapés à l'aller au retour. Donc, j'avais dit, ça peut peut-être jouer sur l'envie. Après, non, ils ont pas... dans le contexte aussi, ouais. Ils ont des absences.
Là, ça s'est joué sur le talent.
Non, mais là, ils ont pas géré les émotions. Tu sentais qu'ils étaient complètement timorés. Il y avait pas de pressing. Même Gaël Kakuta, qu'on a loué toute son intelligence de jeu. Et c'est un super joueur. Mais aujourd'hui, il était pas dedans. Ça se voyait. Toute son équipe, elle était au-delà de tout ça. Il y avait un grand gouffre technique entre les deux équipes. C'était pas possible.
Leurs supporters leur ont mis trop la pression au début.
Mais la pression, tu sais que de toute façon, vous avez pas mis la pression à votre équipe lilloise là,
ouais,
à la veille du match.
Non, mais surtout sur le fait de dresser les. Ça fait 13 ans qu'ils nous ont pas dressés. J'ai 4 garçons. J'en ai un de 18 ans, j'en ai un de 13 ans, j'en ai un de 9 ans. Celui de 9 ans, c'est son premier derby. Et celui de 13 ans, il a jamais vu Lens perdre. Enfin voilà. Moi, je suis super content. Lille a gagné 4-0. On est leader en plus du championnat. C'est un beau pied de nez. Et puis demain, je vais au boulot. J'ai un collègue
Lensois.
Il va manger toute la semaine, quoi.
Salut Steve.
Bonsoir.
Salut,
Steve.
Fred,
bonne soirée.
C'était un super joueur, Fred. J'adorais.
Merci, c'est gentil à toi.
Tu sais qu'il a failli aller à Lens quand même.
Comment?
Tu sais qu'il a failli aller à Lens.
Ouais, mais il n'y a pas été, tu vois.
Il n'y a pas allé, il n'était pas assez bon.
Il n'y a pas été, c'est vrai. Bon, tu n'as pas été à Lille non plus, tu me diras. Dites-moi, alors on va faire une évaluation dans quelques instants, mais quel est le joueur qui vous impressionne le plus? Parce que quand tu regardes la compo d'équipe, tu dis...
C'est difficile, ça.
C'est ça, c'est pour ça que je pose la question.
Sur le match
on va dire sur le début de la saison, quoi. Voilà. S'il y en a un, tu vois, entre Renato Sanchez, moi j'irais quand même Burak Yılmaz.
Burak, mais moi j'aime beaucoup Arojo. Arojo parce qu'il revient.
Il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien.
Pendant tout le match, Jean-Mol, je dis attention, personne parle de Bamba, mais il fait un début de saison de dingue.
Aussi, ouais, c'est vrai.
J'ai du mal à sortir des mecs, moi.
Sinon, on met le 11. Hein.
Moi, je trouve que c'est super complémentaire, Fred. C'est super complémentaire leur équipe en ce moment-là. La façon qu'ils ont tourné le mec devant, évidemment, on l'aime bien, Burak. Arojo, j'aime bien aussi. Il est en train de s'installer vraiment bien. Enfin, ça fait longtemps qu'il est à Lille, mais.
Il s'installe. T'imagines, il connaît sur le banc ce soir. Il connaît sur le banc, international français. Ça veut tout dire. Hein.
Moi, après, la charnière, j'aime bien. Moi, franchement, José Fonte, oui.
Les deux. José Fonte, il est en train de mettre Botman avec lui. Il entraîne
Batman, il me plaît bien. Il entraîne Renato avec lui. Sanchez, j'aime beaucoup aussi. Bamba, vous avez raison, depuis le début de la saison, c'est fort, c'est rapide et ça a l'air moins écervelé.
Non, mais il n'y a pas beaucoup de poids
parfois, là.
Mac Maignan, c'est très
fort.
Les
latéraux, hein. Moi, les latéraux, je les aime bien, les latéraux aussi. Hein.
Ouais.
André, non, tout le monde j'aime bien l'équipe. Non, non, vraiment, c'est petit coup de cœur pour le LOSC, là. Et depuis le début de la saison, hein, je le signale.
Eric est avec nous, supporter lillois. Salut, Eric.
Oui, bonsoir. Bonsoir de Lens,
il veut pas... Eric est un fidèle de l'after. Bon, bah là, Eric, là, leader de la Ligue 1, mon gars.
Ah, mais c'est, franchement, c'est exceptionnel. On est très contents. Et ce soir, enfin, c'est le premier point positif du coronavirus. Lens est remonté en Ligue 1. Donc là, ça fait du bien. Franchement, c'était un super match. Et ouais, on a une super équipe, j'ai l'impression aussi. Vraiment,
Bosman. Vous avez un super manager aussi, hein, parce que des fois, on peut avoir une super équipe et un entraîneur complètement à la rue.
Ah ouais, t'imagines que là, ils sont donc premiers, mais rappelez-vous du match à Marseille, où franchement, ils sont larges au-dessus. Et il tue pas le match. Et Galtier, tiens, pour le coup, avait fait une petite erreur dans ses changements et tout ça. Il ne gagne pas ce match, mais il pourrait avoir deux points de plus. Parce que contre l'OM, franchement, il les avait tartés à domicile. Hein.
Et contre Rennes, on mène 1-0 et Rennes prend un rouge. Et derrière, il y a Reynildo qui, 9 minutes plus tard.
Mais le match était plus partagé. Le match était plus partagé. Attention, Rennes avait été bon.
Oui, bah après, Eric, tu vas pas gagner non plus tous les matchs.
Non, c'est pas ça, mais c'est pour dire que.
Non, celui contre Marseille, ils doivent le gagner. Celui de Rennes, je suis pas d'accord avec lui. Je pense que Rennes le match était très partagé, une mi-temps chacun. Mais à Marseille, vous devez gagner 1000 fois parce que vous êtes vraiment au-dessus. Donc, les deux points de plus, tu pouvais les prendre là.
Il y a pas de hasard, en fait. Hein. C'est ça, c'est qu'on n'a pas l'impression de voler notre place ou que ce soit, en premier,
pas du tout.
Super.
Ouais.
Mais non, vraiment.
Tu voles rien du tout là, je te le dis là.
Ouais, et pour nous le joueur là vraiment, et c'est Botman. Et ce soir, on a l'impression qu'il joue avec ses enfants. C'est un enfer. À chaque fois que les mecs ont essayé quelque chose en face, ils ont été ridicules quoi. Il a tout quoi. Il est rapide et tout. Et c'est vrai que le bémol, c'est que Jonathan David, il fait un peu de la peine des fois. Mm-hmm. Et ce qui fait encore plus de peine, c'est qu'il le sort pas. C'est-à-dire que...
Parce qu'il veut qu'il marque, il se dit, ouais, là, dans un match comme ça, où on cartonne l'adversaire, il va bien en mettre un, puis il le met pas.
Mais, ok, c'est d'accord, sûr, mais t'imagines dans l'équipe, dans l'équipe comme elle est construite ce soir-là, Jonathan David, tu le mets pas, et tu mets Iconé à sa place, même si c'est pas réellement sa vraie place.
Pas Iconé.
De quoi?
Pas Iconé, pitié. Pas Iconé.
Pourquoi pas Iconé?
Bon, Iconé, c'est l'apologie de la nonchalance, c'est un mec qui rentre avec un chewing-gum sur la pelouse, qui rate 5 passes sur 6, qui fait que... Non.
Bon. Et je ne suis pas en désaccord à 100%. Je suis pas en désaccord à 100% avec toi, mais il n'empêche... Oui, mais c'est Michael Jordan. Compare pas, Gilbert. Non, mais tu vois, ça, quand tu fais ce genre de choses, Gilbert, moi, c'est... Ouais. Attends, à chaque fois, tu me mets un coup de couteau.
C'est la comparaison voilà, de
tu me mets un coup de couteau.
Est-ce que tu as un grand joueur de foot qui joue avec un chewing-gum?
Non, mais ça, c'est... Non, Cafou. Si tu veux un grand joueur qui joue avec un chewing-gum, Cafou.
Cafou, je sais pas comment on peut courir avec un chewing-gum, moi, mais bon, c'est un truc que ça
m'amuse. Non mais ça d'accord, mais là t'as mis dans la main. D'abord au basket on court quand même moins qu'au foot là sur le parquet. Mais Jordan, il connaît non. Gilbert, tu te mets un coup de couteau là.
Alex Ferguson, chewing gum en mâchant bouche ouverte d'ailleurs.
Enfin non, bref, oui. Excuse-moi cher ami, j'ai oublié ton prénom, mais que tu dises certaines choses sur Iconé, Eric, qui sont pas fausses sur sa nonchalance et tout, et c'est je pense pour ça aussi que peu à peu il perd sa place de titulaire. Malgré tout, dans la compo de ce soir-là, à la place de Jonathan David, il joue. Je pense que Lille, ça peut aller encore plus vite. Hein.
Eh ben, je pense pas, et je pense que le succès de ce début de saison, ce qui fait qu'on est très fort, c'est de l'avoir sorti, lui. En fait, le problème des joueurs de Lille, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont techniquement assez à l'aise, qui se régalent et tout ça. Et en gros, quand tu sors Iconé, déjà, tu retires 80% de nos pertes de balles. Arojo, moi, c'est pas un joueur que j'aimais particulièrement, mais regardez le retour sur le contre-lensois. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais vu de chez Iconé. C'est des mecs qui se donnent... En fait, la force de Lille, c'est que déjà, ils jouent pour gagner, qui n'est pas forcément évident pour toutes les équipes. Ils n'ont pas de problème à concasser les joueurs d'en face au milieu de terrain, à les harceler et à se livrer parce qu'ils savent que derrière, il y aura un effort. Et on parlait des latéraux. Bradaric, c'était pas terrible l'année dernière. C'est qu'il fait une mauvaise saison. Et là, t'as Bamba...
Ah, c'est un gamin. Là, il est bien. Là.
Ouais, et ils sont mis toute la tête à l'endroit. Quoi. Et c'est exceptionnel parce que si tu regardes bien les matchs de l'année dernière à la stage, c'est incompréhensible. Et moi, c'est bravo Bamba pour le mec qu'il est, parce que il a toujours joué carte sur table, il dit, j'ai fait une mauvaise saison, j'ai pas été bon, je vais me rattraper et tout ça, et t'as vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui, il a son déclic et il est excellent, excellent et grand respect à lui, quoi. Vraiment, on est fiers d'avoir un joueur comme ça.
Bon, Jonathan David, t'en dis quoi, toi?
Bah, c'est compliqué parce que déjà on comprend pas pourquoi c'est Yilmaz qui tourne autour de lui, parce que soi-disant que c'était pas une vraie pointe et tout.
Mais non, c'est pas une vraie pointe. Si on regarde les matchs à la Gantoise, il jouait pratiquement numéro 10, 9,5. Donc effectivement, c'est pas une vraie pointe. Et on le voit en fait, hein, que c'est pas une vraie pointe. Il dézone vachement pour venir chercher les ballons. Et c'est ça qui est un petit peu embêtant, parce que c'est plutôt Yilmaz qui va dans la profondeur.
Non mais bon, moi je.
C'est pour ça, pour ça que justement Daniel il dit que si tu mets un Ikoné, ça va aller encore plus vite, parce que lui, tu mets Ikoné en 9,5, Yilmaz devant avec un 4-2-3-1, ça peut, attention à Lille, ça peut aller encore plus vite.
Ouais, parce que c'est vrai que les changements ce soir, moi c'est ça qui m'a frappé, parce que quand tu changes, t'as quand même des super joueurs qui rentrent, Cheka qui est un bon joueur, Soumaré. Bon, après, Galtier a manqué de respect parce que il a fait rentrer Soumaoro. Je me suis dit derrière, il va faire rentrer les féminines et ça va être l'humiliation. Il faut qu'il arrête parce que, avec Soumaoro, ça va trop loin. Il faut quand même les respecter, quoi. C'est des êtres humains.
Et, il peut pas s'empêcher de chauffer un peu les lanceois, Eric, là.
Soumaoro, c'est un passage seulement.
C'est un beau clin d'œil, quand même.
C'est l'inverse, franchement.
C'est un bon joueur. C'est un ancien capitaine, voilà.
Pas du tout un bon joueur. C'est quelqu'un qui se prend pour un bon joueur, qui cherche des contrats à être payé plus. Il cherche à s'évader en Italie. Enfin, c'est quelqu'un qui est là, parce qu'il a pas envie. Il a envie de faire autre chose de sa carrière. Le problème, c'est qu'il a pas le talent. Maintenant, Soumaoro, c'est un mec qui peut prendre un rouge à chaque instant. On lui doit la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG où il fait une magnifique déviation, enfin pour Di Maria. Donc moi j'ai pas de problème avec ça, mais il faut pas oublier que
c'est vrai que le questionnement Jonathan David, il va quand même, ça va continuer. C'est-à-dire que Lille a craqué son portefeuille pour Jonathan David. Ouais. C'est un transfert record pour le LOSC. D'un autre côté, tu récupères Bourak gratos et finalement c'est celui que t'as gratos qui cartonne. Donc
mais ça va rentrer, c'est sûr que ça va rentrer. Après, il est jeune, à mon avis. Le statut, la pression, ça doit pas être facile non plus pour lui, quoi.
À gérer, oui.
Alors, il y a quand même une question là. Il y a un truc qu'on va suivre de près, c'est Campos. Vous avez vu que bon, c'est Canal qui a annoncé ça avant le match, comme quoi Campos voulait absolument partir. C'est quand même l'homme qui est à la base du recrutement, qui historiquement, depuis qu'il est là, est globalement réussi, parce qu'il a sa méthode qu'on connaît bien, qui nous explique à chaque fois et tout. Bon, j'imagine quand même que pour Lopez, il y a objectif, j'allais dire, bon, sans doute obligation d'essayer de le garder, cet homme-là, Eric. Alors toi, tu te dis maintenant que la saison est lancée, on n'en a peut-être plus besoin, je ne sais pas, quel est ton avis?
Moi, j'ai pas beaucoup de principes dans la vie, mais s'il y a bien une chose que je sais, c'est que quand l'argent parle, la vérité se tait. Gérard Lopez, il est milliardaire, il rembourse des prêts qu'il a contractés avec du trading. S'il gagne de l'argent avec le LOSC un jour, c'est que parce que Campos, il est là. Donc s'il s'entend pas avec Ingla, qui n'a pas été élu là récemment, c'est Ingla qui va sauter. Et voilà, maintenant j'ai l'impression que les articles sortent pour qu'on puisse poser des questions en interview, parce que je crois que fondamentalement, il n'y a rien de nouveau. Voilà moi ce que je pense, Campos va rester avec Gérard Lopez. Alors après, il faut voir si...
Ils sont venus ensemble de toute façon.
Ouais, dans le cas, enfin parce que en fait Campos avec le Paris Saint-Germain, s'il y va, je sais pas bien à quoi il va servir, parce que lui il cherche des jeunes et que Paris ils achètent plutôt des joueurs déjà confirmés. Il faudrait qu'il parte à l'étranger dans un club qui veut mettre beaucoup d'argent. Moi je pense que Lopez, son projet, il est trop dépendant de Campos et les rentrées d'argent de Lopez sont trop dépendantes de Campos. Donc il va s'asseoir, il va lui dire écoute, tu veux un jet, tu veux quoi et tout, voilà quoi. Et puis il va rester. Après, moi aussi, Paris.
Écoute, ton raisonnement est juste. Le seul truc, c'est que si un club veut Campos et peut lui donner plus que ce que donne Lopez, il ira à l'autre club. Mais ce que tu dis, pour le reste, c'est juste. Effectivement, il y a une interdépendance des intérêts. Et en gros, aujourd'hui, la façon dont fonctionne Lille, je vois pas de mec plus important que lui.
Oui, c'est sûr.
Donc, si je suis Gérard Lopez, je fais sauter tout le monde avant de faire sauter Campos.
Moi, je me rappelle un petit peu aussi des afters de la saison dernière où on se posait énormément de questions sur cette équipe de Lille par rapport aux joueurs qui restent à peine un an. On parlait d'Osimhen, je me rappelle. On parlait de plein de joueurs comme ça qui arrivaient, qui repartaient. Et on se demandait, est-ce que Lille va réitérer à chaque fois les bonnes saisons? Et finalement, Galtier, il arrive.
Ça, c'est Campos.
Bah ouais, justement, c'est pour ça on parle de Campos, donc c'est pour ça que je reviens un petit peu là-dessus.
Parce que si tu veux faire du trading qui marche, faut que t'aies un recruteur super performant, sinon ton trading il est pourri.
Campos, à mon avis, il doit avoir les joueurs sur 2 ou 3 ans déjà.
Ah bah, sa méthode, on la connaît. Hein. Tu sais que lui, c'est genre il supervision pendant, je sais pas, 40 matchs par des personnes différentes. Il est venu plusieurs fois dans le team du gars l'an dernier expliquer bah, sa méthode.
Attends, en plus,
méthode.
Attends, Gilbert, attention quand même. Campos, il travaille pas tout seul.
Ah bah, Campos, c'est un réseau. Ils ont un réseau de malades.
Non mais
déjà Campos c'est un mec qui a sa propre boîte. Il est pas salarié des clubs.
Voilà.
Il vient, il est prestataire.
Voilà.
Donc il a sa propre boîte et qui bosse pour un club comme il le faisait à Monaco, à Lille. Avec à chaque fois il apporte sa méthode. Voilà.
Exactement. Donc comme il est prestataire externe, je veux dire, il pourrait officiellement ne plus être à Lille, mais indirectement soit mettre un mec à lui qui bosserait pour Lille et auquel cas, on va dire que Lille aurait plus je sais pas moi si avec Campos ils avaient les premiers choix avec son adjoint ou avec un mec à lui sa boîte lui donnerait les deuxièmes choix, tu vois. Ouais. Il y aurait indirectement matière à bosser quand même avec lui d'une autre façon, tu vois. Là on est dans une sorte de business international et une façon de gérer un club qui est complètement déconnecté de ce qu'on a l'habitude de voir avec un président, un directeur sportif et tout. Là t'as l'impression qu'en fait Lille ils sont gérés, ils ont des boîtes externes qui bossent pour eux. C'est un truc un peu complètement nouveau quoi.
Ah ouais, l'argent,
on n'a pas l'habitude de voir.
L'argent rentre de partout en fait.
Ça sort de partout. Voilà, c'est des prestations. T'as l'impression que t'as un mec qui peut venir et dit oui, monsieur, oui. Alors moi j'ai mon catalogue, ma mallette. Bon, alors vous voulez un attaquant. Alors non. Alors le premier choix, désolé, vous n'avez pas les moyens. Mais je vous conseille en deuxième choix. Alors donc nous avons ce petit Belge là à 25 millions. C'est plus dans vos cordes. Tu vois, t'as vraiment l'impression que t'as les mecs qui arrivent comme ça. Et donc peut-être que Campos, même en partant. Peut-être que ce serait pas si dramatique que ça pour Lille. Je sais pas,
faudrait que la saison est lancée.
Plus près, si on peut avoir des infos là-dessus, quoi.
Eric, merci en tout cas.
Merci, non,
Eric.
Pour la saison, non. C'est pour le reste, ouais.
Mais merci à vous. Bonne soirée. Et je veux dire aux supporters lensois que leur équipe, elle a été très bien. Elle a pas refusé le jeu et tout ça. Ce coup-ci, c'est nous. Bon, voilà, très bien. Je leur souhaite une très, très bonne saison. Et Lille champion, Lens deuxième. Il faut qu'ils accrochent le PSG. Allez-y, comme ça. On y croit tous, hein. Bon.
C'est bien Eric est fair play. Voilà. Tiens, bah Geoffrey Lensois, il est avec nous. Geoffrey, bonsoir.
Supporter Lensois.
Salut les gars.
Un peu.
Salut
Geoffrey.
Vous allez bien?
Oui, et toi?
Bah écoute.
Alors, qu'est-ce qui va pas?
Ouais, non. Bah, alors,
qu'est-ce qui va pas? Il y a tout qui va. Ils prennent une tôle contre plus fort. Ils doivent même pas être déçus.
En fait, voilà, il y a deux choses. Il y a le côté supporter où, franchement, j'ai les boules, tu vois, tu perds le derby. Surtout vu le score, ça fait chier. Je crois que je vais me mettre en arrêt pour pas aller bosser demain, sinon toute la semaine je vais me faire démonter par les collègues.
Mais ah, c'est-à-dire que t'as des collègues qui sont pour le LOSC.
Bah en fait le truc, moi j'habite à Lille, je bosse à Lille. Même si dans notre service on est quand même 5 Lensois pour 3 Lillois, et ben on va prendre cher demain. On avait tellement chambré que j'étais venu là d'ailleurs il y a 2 semaines chambré chez vous. Bon, maintenant voilà, c'est tout. Mais
en même temps, excuse-moi, mais enfin vous montez de Ligue 2, vous êtes dans le top 5 en ce moment. Je veux dire, c'est fantastique ce que vous faites, quoi. C'est bien.
Bien sûr,
je dis pas que le maintien est assuré parce qu'on est encore très très loin. Mais bon, oui. Il y aura des derbies peut-être plus chauds un jour, mais là c'est un derby déséquilibré. On parle pas de la même chose.
Si j'appelais, c'était vraiment pour défendre un peu mon club parce que c'est sûr que j'ai les boules, voilà, de ce qui s'est passé. En revanche, quand on voit le match, franchement, il y a quand même rien à dire. On voit qu'on n'est pas dans la.
Mais oui, vous avez même pas fermé le jeu, vous les avez regardés dans les yeux et tout. Moi, je trouve que c'est propre ce que vous avez fait.
On a joué avec nos moyens, avec en plus nos deux meilleurs joueurs, Ganago blessé et Medina derrière qui.
Ton meilleur joueur, c'est Kakuta, il a joué.
Ouais, c'est le meilleur joueur quand il est servi, quand Medina est là pour bien relancer dans les pieds. Là, malheureusement, on a beaucoup balancé, qui est dû aussi au gros pressing du LOSC, hein, attention. Voilà, on est tombé sur une équipe qui joue pas du tout le même championnat que nous. Certes, on a.
C'est-à-dire que sans Medina, c'est un peu le souk, le jeu de lance.
Ben c'est ça. Moi, franchement, j'espère un petit peu. Non, belle blague, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal celle-là. Non, mais voilà.
Quand y a un joueur comme ça qui manque dans une équipe, forcément, même défensivement, ça rajoute quand même quelque chose à l'équipe.
Mais on n'a pas un gros effectif, donc il est remplacé par Radovanovic, qui est un joueur que j'adore, mais qui a encore joué cette saison, un part en amical. Voilà, le deuxième but, c'est pour lui. Mais en tout cas, moi, je reste vraiment fier de mes joueurs, fier de mon équipe. On fait un beau début de saison. Là, on s'est pris une grosse claque. Ça fait mal, ça c'est clair et net. Bon. Maintenant, j'espère qu'on va se relever et qu'on va continuer à aller de l'avant comme on le fait dans notre jeu. Parce que, mine de rien, on essaye de jouer.
Et vous avez pris des points. Vous avez pris des points qu'il fallait aussi, hein, de, même si on parle du début de saison, mais le DTE, il est quand même bon.
On a battu Lorient, voilà. À Lorient, qui est quand même un adversaire direct, hein, pour le maintien. On est allé chercher un point à Nice. Pas à Nice, on est allé chercher un point à Nîmes.
Vous avez battu Paris, même si on bat toujours Paris.
Paris, on bat Bordeaux.
Voilà.
C'est quand même des. Moi,
c'était pas volé, hein.
Exactement, on est. Je ne veux pas dire qu'on a une place, mais parce que voilà, le championnat est encore long et on a un effectif qui reste quand même assez limité. Dès qu'il y a des blessés, on va le sentir de suite. Donc voilà, ça pique vraiment, mais je reste fier et on va rester derrière notre équipe jusqu'au bout et on joue le maintien et on va le jouer à
fond. Ça marche. Geoffrey, on te souhaite une bonne semaine au boulot. Hein.
Ouais, salut les gars. Ouais, allez,
salut Geoffrey.
Salut.
Dans quelques instants, on revient. On a fait le tour, hein, avant que vous ayez un autre truc à rajouter sur le derby.
Non, non.
Parce que là, l'évaluation, bon, on a à peu près de ce qu'on pensait de bien des joueurs lillois. Et les pauvres Lensois, bon, ce soir, ils sont tellement fait écraser qu'il n'y a pas, enfin, pas non plus les accabler plus que ça.